Au quotidien, avec Clotilde Seille.
J'ai sous les yeux la photo d'un bébé tigre de 1 mois et demi. Et c'est un bébé tigre qu'il n'y a pas encore si longtemps, on pouvait caresser et prendre dans ses bras. C'est vrai que quand tu vois ça, c'est complètement craquant, avec ses papattes qui sont aussi larges que ma main, mais c'est complètement fou. Puis ses beaux petits yeux, là, ça vous regarde. C'est sûr qu'on en mangerait. Mais bon, avant qu'il nous mange, quoi. Eh bien, on n'a plus le droit de toucher aux animaux. En tout cas, les visiteurs et les employés du zoo de Falardeau ne pourront plus caresser et prendre les animaux dans leurs bras. C'est à la suite d'une plainte déposée au mois de juin dernier que le ministère de la Forêt, de la Faune et des Parcs a pris cette décision. En juin dernier, une dame visitait le zoo avec un groupe d'enfants. Et l'un des petits tigres, âgé alors d'environ 3 mois, l'aurait blessé au bras. La dame se serait ensuite rendue à l'hôpital puisque son bras avait enflé. C'est l'hôpital qui aurait déposé la plainte. Et la semaine dernière, les propriétaires du zoo de Falardeau ont reçu la visite d'inspecteurs du ministère de la Forêt, de la Faune et des Parcs. Et c'est lundi dernier qu'ils ont reçu l'avis d'interdiction qui vaut aussi bien pour les visiteurs que pour les employés. C'est ridicule. Comment allons-nous faire pour prendre soin des animaux? Simplement, avec les 3 petits tigres que nous avons eus au printemps dernier, il a fallu les nourrir au biberon puisque leur mère refusait de les nourrir, a affirmé le propriétaire Daniel Gagnon lorsque rencontré hier par Le Quotidien. Ce dernier s'est dit déçu, mais également scandalisé par cette décision. « Je n'étais pas là lors de la visite de la dame en question, mais ma guide m'a expliqué ce qui s'était passé. » La guide a dû avertir à 3 reprises la dame car elle s'y prenait mal avec l'animal. « Je ne comprends pas grand-chose à cette histoire de plainte », a indiqué le propriétaire. Celui-ci va même jusqu'à évoquer qu'il pourrait s'agir d'un coup monté puisque les affaires du zoo de Falardeau vont plutôt bien. C'est assez curieux que toute cette histoire arrive immédiatement après que nous ayons dévoilé notre chiffre d'achalandage. Je ne veux pas nommer personne, mais la situation est assez bizarre, a ajouté Daniel Gagnon. Le dossier est présentement entre les mains des avocats, des propriétaires du zoo. Je rencontre également des gens du ministère la semaine prochaine. On ne peut pas laisser faire ça, a indiqué M. Gagnon. Évidemment, cette interdiction risque d'avoir une incidence sur l'achalandage du jardin zoologique puisque plusieurs visiteurs s'y rendaient dans l'espoir de toucher les animaux, notamment les jeunes félins. Nous avons 2 missions, recueillir des animaux en détresse et la proximité. Les visiteurs appréciaient ça, a ajouté le propriétaire qui multipliait les entrevues au cours de la journée d'hier. Et toujours dans Le Quotidien, du coup, Louise Potvin est allée rencontrer Christine Gagnon, qui est biologiste au zoo de Saint-Félicien. Et voilà ce qu'elle nous rapporte. Le zoo sauvage de Saint-Félicien ne veut pas commenter l'interdiction pour les visiteurs de toucher les animaux au zoo de Falardeau, mais souhaite informer de la façon dont il procède pour présenter les animaux. Comme nous sommes accrédités par l'Association des zoos et aquariums du Canada, l'ASAC, nous devons nous conformer à une série de critères. Si nous décidons de présenter un animal au public, nous devons présenter notre façon de faire à l'association et remplir des standards très élevés, explique la biologiste Christine Gagnon. Il n'est pas dans la philosophie du zoo de manipuler les animaux. On le fait quand nous sommes forcés, par exemple, pour donner des biberons. Sinon, on laisse l'animal dans son habitat. Quand on décide de présenter un animal, par exemple une moufette, on s'assure que le gardien est toujours en contrôle de la bête. On ne présente que des animaux jugés non dangereux, mentionne-t-elle. Par exemple, cet été, la moufette était présentée aux visiteurs 1 fois par jour pendant 15 minutes pour ne pas la fatiguer. Si les visiteurs voulaient la flatter, ils pouvaient seulement sur le dos et un gardien tenait la bête dans ses bras en maîtrisant bien la tête. On assure le bien-être de la bête et la sécurité des gens, ajoute la biologiste. Évidemment, il est possible aux visiteurs de cohabiter avec les animaux de la petite ferme et de les toucher. parce qu'il s'agit d'animaux domestiques. Par contre, il y a une surveillance continue. Et puis voici un autre papier de Denis Graton que je vais découvrir en même temps que vous, parce que honnêtement, je n'ai pas eu le temps du tout de le lire avant d'entrer en onde, mais c'est évidemment paru dans Le Droit, puisque c'est Denis Graton qui signe cette chronique. Et alors là, on passe du zoo à la basse-cour, chicane dans la basse-cour. Jean Lamadelaine de Casselman avait des poules, 4 poules, donc 4 frais par jour. Il n'y a rien de mieux pour la santé. « Je le sais, j'avais aussi 4 poules quand j'habitais en campagne », nous dit Denis Graton, à Saint-Pierre de Wakefield plus précisément. « Je les avais baptisées Saint-Hubert, Kentucky, Fusée et Scores. » Mais bon, je m'éloigne du sujet. Le problème avec les poules de Jean Lamadelaine, c'est qu'elles n'avaient pas le droit d'être là puisqu'un règlement municipal interdit l'élevage de volailles sur le territoire de ce village de près de 4000 habitants. Pas de poules à Casselman, donc. Ce règlement a été adopté en 1996 par le conseil municipal de l'époque, alors dirigé par l'ancien maire de Casselman, Conrad Lamadelaine, le père du propriétaire des 4 volailles. Cherchez l'erreur. Ce qui devait arriver, arriva. Certains voisins des poules ont porté plainte auprès de la municipalité. Entre donc en jeu l'officier aux règlements municipaux de Casselman, Stéphane Langlais. Celui-ci a fait son travail en faisant parvenir une lettre enregistrée à Jean Lamadelaine le 2 juillet dernier l'avisant que ses poules devaient quitter leur nid. 2 autres résidents de Casselman qui possédaient des poules avaient reçu dans le passé le même avis de M. Langlais. « La loi, c'est la loi », comme disait Séraphin Poudrier. « Et dans mon livre, a dit M. Langlais, la loi s'applique à tout le monde. Je ne peux pas demander à un résident de se départir de ses poules puis fermer les yeux sur le voisin qui en a aussi. » Jean Lamadelaine a respecté le règlement municipal et ses poules ont fait leurs adieux. Donc, tout est bien qui finit bien, non? Pas vraiment. Pas vraiment parce que le père de Jean Lamadelaine, le candidat à la mairie de Casselman aux élections du mois prochain, Conrad Lamadelaine, n'était pas content de la décision de l'officier aux règlements municipaux, mais pas du tout. Parce que selon lui, les règlements municipaux ne sont pas des lois, mais bien des guidelines. Des guidelines? Des guidelines, ça se dit ça? Ah, c'est guidelines, hein, c'est ça. Mais ça aurait pu être guideline, guideline. Non. OK, donc ce sont des guidelines. OK, ça marche. Elle l'avait raté, celle-là. Voyons, du coup, voilà, j'ai retrouvé ma ligne. Donc, Conrad, j'espère que vous me suivez dans cette affaire de poule, Conrad a décidé de prendre la plume et de transmettre une lettre à Stéphane Langlais pour lui dire sa façon de penser. J'ai obtenu une copie de cette lettre écrite le 11 juillet dernier par le candidat à la mairie. La voici intégralement. Bonjour Stéphane. J'ai appris ce qui s'est passé avec Jean, mon fils, et ses poules. J'ai même parlé avec les voisins et vérifié ce qui s'est passé. J'avoue que je ne pensais jamais que tu irais jusqu'à mentir pour pouvoir abuser de ton poste comme tu le fais. Monsieur Lamadelaine l'accuse de menteur parce que, selon lui, aucun voisin ne s'est plaint de la présence des poules. Stéphane, les lois municipales sont faites pour aider les gens, les protéger des abus. C'est un guide sur tous les arrêtés municipaux. Ce serait une révolte constante au sein de notre municipalité. Et qui en serait les perdants? Présentement, il y a plus de 150 personnes qui sont fâchées de voir ce qui s'est passé avec Jean, car les petits-enfants aimaient aller chez lui pour ramasser 3 ou 4 œufs par jour pour ramener chez eux. C'était une fête à tous les jours pour ces petits du quartier. 4 poules dans une cage portative rendaient un esprit de fête à ces petits. Toi, tu as tout détruit en jouant la police et en abusant de tes pouvoirs. Aucun résident du quartier n'avait porté plainte. C'est toi tout seul qui as tout décidé. Où est ton esprit communautaire? Ça m'a fait de quoi quand j'ai appris cela, car c'est moi qui t'avais recommandé à ce poste. Mais je réalise qu'aujourd'hui que j'ai commis une erreur. Je pense que tu étais plus humain que cela. Toute notre vie, il faut penser aux conséquences de nos gestes, surtout avec les enfants. Stéphane, tu as fait une grosse erreur et souviens-toi, tu es au service d'une communauté. Tu dois chercher à les aider et non à les punir. Quand on abuse de ses pouvoirs, on finit toujours perdant. Celui qui donne, reçoit, mais celui qui prend, perdra. Conrad Lamadelaine. Que veut dire La conclusion de votre lettre, monsieur la Madeleine, est-ce une menace voilée de votre part? Une promesse de représailles envers l'officier aux règlements municipaux si vous êtes élu à la mairie le 27 octobre prochain? Est-ce que je me trompe? De grâce, dites-moi que je me trompe. Et puisque vous avez adopté ce règlement en 1996, vous n'auriez pas pu aviser votre fils que les volailles étaient interdites à Kesselmann? Vous l'aviez sûrement oublié. Et si je comprends bien, Stéphane Langlais avait raison d'appliquer le règlement anti-volaille lorsque deux autres résidents possédaient des poules. Mais il a manqué d'humanité et d'esprit communautaire en l'appliquant dans le cas de votre fils, c'est ça? Avec cette façon de penser et de faire les choses, mon cher monsieur Lamadeleine, vous serez, selon moi, foi de Denis Graton, réélu à la mairie de Kesselmann, quand les poules auront des dents.
Dans le miroir, gros choc pour le coq du village. Une patte d'oie qui était pas là hier au soir. Le coq déchante devant son image. Le temps vient de me faire une jambette. Et sonne le glas des amourettes. Fini les petites vites en cachette et les conquêtes à l'aveuglette. J'ai fait le tour de la basse-cour. Faudrait passer aux choses sérieuses. Me semble que je suis mûr pour le grand amour. À soir, c'est le grand soir. Je trouve une bondeuse. Check the cock, watch the cock. Je l'ai coqué dans la peau. Check the cock, watch the cock. Tu me donnes la chair de peau. Check the cock, watch the cock. Tu me fais perdre la peau. Check the cock, watch the cock. Bonsoir mesdames. Si tu veux qu'un petit coq fasse, regarde-moi la face, c'est évident. Les filles me voient plus comme un trophée de chasse que comme le père de leurs enfants. Et pour rendre ça encore plus complexe, j'ai déjà 15 ans de crouse dans le corps. Si j'élimine toutes mes ex, c'est vraiment plus grand chose dans le bord. Si je veux pas finir sur la paille comme un vieux chapon pathétique, il faut que je change ma méthode de travail. Il faut que je mise sur chose que le physique. Check the cock, watch the cock. Je l'ai coqué dans la peau. Check the cock, watch the cock. Tu me donnes la chair de peau. Check the cock, watch the cock. Tu me fais perdre la peau. Check the cock, watch the cock. Besoin de chair de peau. Qui ne soit pas de pacotille. Quelque chose comme de la compassion. Ça, c'est un vrai hameçon à fille. Le coq en était à ses réflexions, devant son boc à moitié plein, quand entra dans son champ de vision Rita, la blonde du gros taupin. Une belle grosse ampoule s'alluma. Ouais, ouais, ça va marcher, c'est infaillible. Je m'en vais draguer la belle Rita jusqu'à ce que le gros pète un fusible. Ah ouais, j'embraye le cause contrôle comme une opération suicide. C'est sûr que le taupin la trouvera pas drôle, pis que je vais en manger une solide. La catulcan défigurée, débarrassée de mes apparats, il se trouvera une fille pour m'aimer et jouer les mères des raisins. La première qui se garoche à mes genoux, je la garde pour moi, un point c'est tout.
Ok, c'est pas le plan du siècle, mais faut pas trop lui en demander. Le coq est coq, je dis les bêtes, mais ses neurones sont moins chers.
Combo shooter, regard intense.
Check the coq, watch the coq.
La belle Rita mort à l'hameçon.
Check the coq, watch the coq.
Frotti frotteur sur le plancher de danse.
Check the coq, watch the coq.
Le plan marche à la perfection. La tournée est même pas terminée. Guerre sur son épaule, une main s'écrase. Le gros taupin l'air perturbé. Dit
viens là le point qu'il faut que je t'ajose.
Le grand respire, sort dehors, prêt à manger la volée de sa vie. Mais la réplique fesse encore plus fort.
Trip à toi, ça te tendra-tu?
Ça me fait toujours mes aïeux avec la basse-cour. Bon, alors, art et spectacle, télévision, faut que je vous fasse un aveu. Je n'ai jamais, ne serait-ce que porté un œil, un regard, une oreille sur l'émission Occupation double. Et là, ça m'a ça m'a un petit peu fasciné de voir à quel point on parlait beaucoup de cette nouvelle émission de télé-réalité contrairement à Occupation Double, nous dit-on dans la presse, n'étire pas les présentations. Ça va s'appeler Vol 920. Ça va mélanger, oui, amourette, rencontre, mais aussi voyage. Et c'est Yann Englund qui sera l'animateur de ce vol 920. Hugo Dumas dit dans la presse, « Malheureusement pour notre bêtisier collectif, la réponse est non. L'alerte au douchebag, ça se dit ça, douchebag, de calibre international est levée. Vous pouvez allumer la télé sans risquer d'être attaqué par une paire de seins en silicone ou un tatouage tribal serrant un biceps soufflé. Les nouveaux célibataires du vol 920 de TVA s'expriment avec beaucoup de clarté, savent situer le Botswana sur une carte du monde et comprennent presque tous que si j'aurais ou ça l'a été, ça sonne pas bien à l'oreille. Zut ! Il y a même un participant, Mathieu, disquaire barbu de Montréal, qui cite du Paul Éluard dans le premier épisode que TVA enverra en l'air dimanche à 20h30. Ce même Mathieu, un vrai hipster de 30 ans, qui ressort énormément dans l'émission de départ, risque de vous tomber royalement sur le système. À Anne-Julie, étudiante en arts et lettres, Grano Vintage de Montréal, il susurrera « J'aime l'idée de toi comme étant le prolongement de moi ». Non mais, il la veut ou ça claque ? Hugo Dumas poursuit dans la presse. « L'âge des 20 voyageurs de vol 920, 10 gars, 10 filles aussi entre 21 et 34 ans ». Il y a beaucoup de profs parmi les globetrotters, mathématiques, comptabilité, éducation physique, mais aussi un pilote d'avion, une traductrice, un instructeur de surf, un entrepreneur et un éducateur spécialisé. Une des candidates, Virginie, 21 ans, souffre de surdité. Comme elle lit sur les lèvres, Virginie peut aisément épier les conversations de ses camarades et décoder qui en pince pour qui. La grande aventure des concurrents qui les transportera dans 9 pays, 9 destinations, 20 célibataires, d'où le titre de l'émission, démarre en pleine savane aride du Botswana. Contrairement à Occupation Double, Vol 920 n'étire pas les présentations. Très rapidement, les 20 participants qui ne disposent que d'un sac à dos pour transporter tous leurs effets personnels se répartissent dans des tentes mixtes. Ils vivront ensemble 24 heures sur 24. Et même dans Le Devoir, oui, même dans Le Devoir, on parle de cette émission-là sous le titre « Partir autrement ». Et qu'est-ce qu'on en dit ? Et alors, dit Stéphane Baillargeon, la série reprend des canevas éprouvés du genre, à commencer par un montage alternant action et émotion. Ces moments forts semblent captés à l'improviste, c'est le côté réalité, mais sont évidemment toujours un peu arrangés avec le gars des vues, c'est le côté télé. 27 artisans accompagnent la ribambelle québécoise dans le même coin du Botswana. Il y a quelques années, le tournage de The Amazing Race a rameuté une équipe de 280 professionnels. Tout ça pour partir autrement, évidemment. L'œil attentif de la caméra retient quand même des scènes amusantes, par exemple quand une candidate s'extasie d'arriver dans la jungle alors qu'un paysage de savane l'entoure. Et puis en même temps, les jeunes choisis n'ont rien à voir avec les poupounes concrètes et les douchebags incultes d'Occupation Double, autre émission de rencontre sur fond de voyage de la même équipe de production. Les nouveaux portent les vêtements qu'ils transportent dans un sac à dos. Ils s'expriment bien. Un candidat cite même Paul Éluard. Et la profession moyenne du groupe serait enseignant ou un truc du genre. Bref, cette émission, écrit Stéphane Baillargeon dans Le Devoir, cette émission bien faite, sans malice, remplie de simili-exotisme et de bons sentiments, ne peut pas vraiment choquer et elle va certainement faire, elle aussi, le plein de fidèles. Mais probablement pas le gars du Devoir. Il est un des pianistes les plus talentueux de sa génération, vraiment un pianiste génial. Il est d'origine française et il nous revient à Montréal demain à la Maison Symphonique à 19h30. Il s'appelle Alexandre Tarot et il y aura aussi en même temps une projection d'un film qui le concerne. Caroline Rogers écrit dans la presse, la visite de Tarot au Québec est aussi l'occasion de présenter un documentaire sur ce musicien. Le temps dérobé de la réalisatrice Raphaël Ayling-Régnier est un film film en demi-teinte qui introduit le spectateur dans les coulisses de la vie de pianiste de concert. La cinéaste m'a suivi pendant 2 ans. À travers moi, le film montre ce que vivent tous les solistes derrière la scène. C'est une vie qui peut être très difficile, mais pourquoi se plaindre? On a la liberté de faire autre chose. Il y a tellement de métiers plus difficiles. Les gens qui vont à l'usine et qui doivent se lever tous les matins à 4 heures, eux, ils ont droit de se plaindre. Nous, on fait un métier certes difficile physiquement et mentalement, mais dans cette vie, il y a des moments extraordinaires dont je ne pourrais me passer, dit Alexandre Tarot. Pour lui, le plus beau moment d'un concert est celui du lâcher-prise. Ces quelques secondes où l'artiste est sur scène et où il a soudain l'impression de ne plus être qu'un maillon de la chaîne, que le concert se fait à plusieurs. S'il y a 2000 personnes dans la salle, avec moi, ça fait 2001 et l'énergie circule, on n'a plus besoin de contrôler. Ainsi est faite la vie d'un interprète, de grands moments et d'attentes qui durent parfois des années. L'une des difficultés de cette vie de soliste, c'est l'anticipation. On doit savoir ce que l'on voudra jouer dans 3 ans. Mais comment anticiper le désir ? Pour ne pas tourner en rond, je dois programmer du nouveau répertoire pour l'avenir. Mais comment savoir si ce que j'ai envie de faire aujourd'hui, j'aurai encore envie de le faire dans 3 ans? C'est un aspect délicat et difficile à gérer du métier, dit entre autres Alexandre Tarot dans cette entrevue, trouvée dans la presse. Donc, je vous rappelle qu'Alexandre Tarot va présenter un concert demain à 19h30 à la Maison Symphonique et qu'il y aura aussi une projection du Temps dérobé en présence du pianiste ce soir même à 19h au Cinéma du Parc à Montréal. Puis Charles Aznavour se présentait sur scène hier et les quelques 7000 spectateurs qui étaient présents au Centre Bell n'avaient d'autre choix que de réaliser à quel point ils étaient privilégiés d'assister au spectacle d'une véritable légende vivante. C'est d'ailleurs avec une ovation debout que le chanteur s'est fait accueillir par son public. La première fois que je suis venu ici en 48, j'avais 24 ans, a lancé l'auteur-compositeur-interprète. Et il n'y a pas grand-chose qui a changé depuis, a-t-il dit. J'ai la voix toujours aussi cassée, j'ai la voix la plus cassée du métier après Armstrong, a ajouté celui qui est bien conscient de l'effet du temps sur son appareil vocal. Aznavour semblait particulièrement en forme hier soir. Son timbre de voix, teinté de trémolo, était toujours aussi distinctif et émotif. Il a réussi à interpréter ses chansons avec beaucoup de passion et d'aplomb. Le chanteur était accompagné de plusieurs musiciens, dont le grand pianiste Éric Berchaud, et des multi-instrumentistes qui rendaient entièrement justice aux magnifiques mélodies des différents titres. Il a fait un tabac et il paraît que ce qui était formidable pendant ce concert, c'est qu'il n'a pas caché qu'effectivement, il avait des problèmes de mémoire, des problèmes de surdité et des problèmes de voix, mais qu'une chanson, ça restait toujours un texte.
Lorsque l'on tient entre ses mains cette richesse, avoir 20 ans, des lendemains pleins de promesses, quand l'amour sur nous se penche pour nous offrir ces nuits blanches. Lorsque l'on voit loin devant soi rire la vie, brodée d'espoir, riche de joie et de folie, il faut boire jusqu'à l'ivresse sa jeunesse. Les instants de nos 20 ans nous sont comptés et jamais plus le temps perdu ne nous fait face. Il passe souvent en vain. Tend les mains et l'on regrette. Il est trop tard sur son chemin rien ne l'arrête. On ne peut garder sans cesse sa jeunesse. Avant que le sourire et nous quittons l'enfance, avant que de savoir la jeunesse s'enfuit, cela semble si court que l'on est tout surpris, qu'avant que de comprendre, on quitte l'existence. Lorsque l'on tient entre ses mains cette richesse, avoir 20 ans, des lendemains pleins de promesses, quand l'amour sur nous se penche pour nous offrir ses nuits blanches, lorsque l'on voit loin devant soi rire la vie, brodée d'espoir, riche de joie et de folie. Il faut boire jusqu'à l'ivresse sa jeunesse. Car tous les instants de nos 20 ans nous sont comptés, et jamais plus le temps perdu ne nous fait face. Il passe souvent en vain, on tend les mains et l'on regrette. Il est trop tard, sur son chemin rien ne l'arrête. On ne peut garder sans cesse sa jeunesse.
Mes amis, j'avais le choix. Ou alors je coupais la chanson d'Aznavour, sa jeunesse, et je vous lisais quelques lignes concernant le camp d'entraînement du Canadien, ou alors je laissais la chanson de Charles Aznavour jusqu'au bout. Et j'ai choisi, vous l'aurez constaté, la deuxième formule, si bien que je n'aurai pas le temps de vous parler du camp du Canadien, mais croyez bien que je vais me reprendre un autre jour. Je vous remercie beaucoup d'avoir été là. Merci beaucoup à mon ami Martin Dupuis d'avoir assuré la partie musicale et technique de cette émission. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous donne rendez-vous demain matin à 10h, sans rancune.